Découvrez Run Up River, le tout nouvel album de Renaud McCarthy, incluant l'extrait For a Moment. Ne manquez pas son spectacle le 26 novembre au Grand Théâtre de Québec. L'album est disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès maintenant et les billets sont en vente au grandtheatre.qc.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Attention, 1, 2, 3...
Bonsoir, vous écoutez Conduite Antisportive, édition du mardi 2 novembre. Gabriel Tremblay à l'animation, en compagnie aujourd'hui de Jonathan Paradis. Comment ça va, Joe?
Bonsoir, Gab, ça va?
Yeah, hello.
On est le soir, nous, à 3h.
On est le soir, c'est déjà le soir. On est aussi en compagnie de Félix Duchesne.
Oui, salut, je me prête à votre émission pour le début, là, parler un peu de hockey, mais après ça, il faut que j'aille préparer mon émission.
Ben oui, pour une deuxième fois déjà.
Yes.
Yes.
Moi qui avais tenté de te rassurer la semaine dernière avec les performances du Canadien, ouf, frappé un mur en solide.
Ouais.
Solide.
On est dans les bas-fonds du classement.
Ouais, ça fait mal. On va en parler justement aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouvelles sur les équipes montréalaises en général. Là, ça a été une fin de semaine très dure pour les équipes de Montréal.
Parlons de foot aussi un peu plus tard, alors que le CFM va pas très bien.
Et le baseball qui tire à sa fin.
Ouais.
Ben, on n'aura plus rien à parler, Gab. Va falloir.
On va arrêter l'émission.
Non, je pense que ça va être la fin.
La semaine passée, la semaine prochaine, c'est la dernière.
On parlera de e-sport, tiens.
Oui, de jeux vidéo. Je te lègue l'émission, Félix, à partir de la semaine prochaine.
Ça
va faire deux heures d'affilée. Deux heures et demie d'affilée.
Et voilà.
Hey, avant, Joe, donne-nous l'ordre du jour. Voilà.
En fait, on va s'attaquer au Canadien de Montréal au début, bien évidemment. Là, la grosse. Pas la panique, je dirais, mais longtemps on a tenté de rassurer aujourd'hui avec des nouvelles par rapport à Price. Ouais. Mais bref, la séquence désastreuse de 2 victoires, 8 défaites. On va parler de Cole Caulfield aussi qui a été retranché. Mm-hmm. Cédric Paquette aussi qui obtient une suspension. Et le rappel de Belzile et Pezzetta, donc qui se joignent à l'alignement. Puis on va voir certains changements, donc, entre autres avec Jonathan Drouin qui se joint à Mike Hoffman. Donc on va découvrir un peu pourquoi ça va aussi mal que ça. C'est à voir. Et la série mondiale aussi au baseball qui tire à sa fin avec les Braves et les Astros.
Exactement. On se garde le baseball pour la fin, comme à l'habitude. Sinon, Joe, j'ai aimé le fait que tu as dit Cédric Paquette obtient une suspension comme si c'était un cadeau. Hey, on lui donne...
un beau deux matchs.
On lui donne 2 jours de congé. Là.
Tout de même mérité.
Non,
là,
oui, ça va. Ben
j'ai
oui.
pas vu le geste, mais je sais que c'est sur Trevor Zegras, puis c'est jamais le fun d'avoir des recrues qui se font brasser de même.
Des recrues vedettes, surtout.
C'est ça.
Ouais. Donc, on s'entend, là, Cédric Paquette aurait dû se garder une petite jointe.
Ouais.
En tout cas, bref.
Deux parties, c'est juste assez pour réfléchir.
Et je pense pas que c'est un récidiviste non plus, donc c'est sa première offense. Deux petits matchs pour réfléchir à ses gestes.
C'est
voilà.
Pas un Chris Kreider.
C'est pas un Chris Kreider, non, vraiment pas. Là-dessus, on va écouter Étienne Fletcher, le France à Squab. En fait, bilingue, originaire de la Saskatchewan. Saskatchewan qui est maintenant établi au Québec. Il a sorti un nouvel album qui s'appelle Entre deux. Et il y a une pièce là-dessus qui s'appelle Jeu de mémoire. Donc voilà, c'est pour un petit lien vraiment très, très lointain avec notre concept de chansons sportives ou ludiques, du moins. Donc on s'en va écouter Étienne Fletcher avec Jeu de mémoire.
Yeah.
Vous écoutez chez 94.3.
Je voulais être heureux. Je voulais te faire plaisir. Il me semblait qu'à deux, il y aurait toujours de quoi à dire. Il reste encore une vie à vivre, même si tout a été dit. Tout est déjà écrit. Voir mûrir le blé, te voir fleurir tes roses. J'aurais jamais cru que des si petites choses me manqueraient tant. Oh. Te voir dans le jardin trop tôt le matin. J'aurais jamais cru que des si petites choses me manqueraient tant. Rappelle-moi comment c'était avant. Rappelle-moi le nom de nos enfants. Rappelle-moi que la vie est belle. Ton nom m'échappe, mais je sais que je t'aime. Ton nom m'échappe, mais je sais que je t'aime. Comment c'était avant? Rappelle-moi le nom de nos enfants. Rappelle-moi que la vie est belle. Ton nom m'échappe, mais je sais que je t'aime. Ton nom m'échappe, mais je sais que je t'aime. Ton nom m'échappe, mais je sais que je t'aime. Ton nom m'échappe.
Vous êtes de retour à Conduite Antisportive, édition du mardi 2 novembre. C'était Étienne Fletcher et la pièce Jeu de mémoire sur les ondes de Cheese 94.3. Jonathan, on parle de hockey avec Félix, parce que Félix, il est là pour quelques minutes. Après, il va faire son émission d'art.
Ouais, on joue de mémoire parce qu'on essaie de se rappeler c'est quand que les Canadiens étaient bons. C'était en 95, apparemment, qui était aussi pourri
aussi
avec
pourri.
Une série de défaites. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Jonathan.
Le début catastrophe.
Jonathan n'était pas né en 95.
Moi non,
toi
plus,
non plus.
Moi non plus. Fait que on n'a jamais connu ça. Le Canadien autant pas bon. Quoique on l'a connu en masse, notre Canadien pas bon.
Mais c'est arrivé, ça s'est produit il y a quelques années, comme je disais à Regarde, en 2017, si je me trompe pas, on a eu un début assez difficile. Malgré qu'avec le Canadien, c'est souvent ça, noir ou blanc, les débuts de saison.
C'est vrai qu'il y a des débuts de saison qui ont genre 10 victoires de suite des fois, puis on ça dit on va gagner la coupe.
Comme l'an passé,
avait super bien commencé. Jonathan, j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi les pistes de solution, parce que là, rien ne va plus. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qui va ramener le feu un peu.
Quelle est la procédure, Jonathan?
Ben, moi, j'ai peut-être pas les réponses en main, on s'entend, mais j'ai pu quand même mettre un peu le doigt sur quelques problèmes qu'il y a dans l'équipe. évidemment, moi, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est au niveau de la discipline, surtout en fin de semaine deux matchs à Los Angeles et Anaheim, énormément de pénalités pour rien. Donc déjà là, de te tirer dans le pied quand ça va déjà mal.
L'indiscipline.
Puis ça, c'est des choses que tu peux éviter dans une partie. Donc ça, je considère que c'est un problème à régler, du moins.
Si je me trompe pas, on est même 30e en infériorité numérique.
Non, on est 30e dans beaucoup de catégories.
C'est vrai ça, mais on n'est pas la fameuse équipe là, en série que quand tu prends une pénalité, ça signifiait peut-être un but pour toi. Ouais. C'est vraiment plus là. Ça va mal. Je pense qu'on a aussi deux petits jeunes qu'on mettait beaucoup d'espoir qui vont vraiment mal. Suzuki qui a un peu de points, mais Caulfield qui s'est fait envoyer à Laval. C'est quand même spécial.
Ouais, il y avait un peu trop de pression sur ses épaules, je pense. Mm-hmm. C'est la première fois pratiquement de sa vie, sa carrière qui fonctionne pas ou que ça débloque pas, qui marque pas. Donc je crois personnellement que c'est une bonne décision pour lui. Considérant en plus l'état de l'équipe en ce moment, le moral doit pas être fort dans le vestiaire non plus, donc ça pourrait aider sa confiance.
Je viens de me rendre compte aussi que le Canadien a fait ça avec Carey Price l'an passé pour finalement avoir une course aux séries vraiment, pas une course, mais un parcours en série vraiment incroyable. Hier, je lisais aussi que, comme tu le dis, Jonathan, c'est un peu pour repartir la machine, lui redonner confiance, retourner dans un état d'esprit plus dominant que en ce moment où tout va mal pour les Canadiens, rien ne va plus, on prend des pénalités, on a un gardien qui a quand même gagné, c'est quoi, c'est le trophée, c'est Jean Béliveau, ou je sais pas trop, le trophée qui donne à chaque mois. Jake Allen a reçu
avant c'était la Coupe Molson, je sais plus, mais maintenant c'est Jean Béliveau, le trophée Jean Béliveau.
En tout cas, c'est un trophée vraiment honorifique là, qui est...
C'était par élimination ce mois-ci, disons-le. Hein?
Et voilà,
qui a été le moins pire ce mois-ci?
On est allé pour Jake Allen, puis on cherche quand même un gardien numéro un. Moi, j'aimerais vraiment voir quelque chose arriver ce soir, un but de Pezzetta, parce que il a l'air d'une flamèche, puis je pense que c'est peut-être la flamèche qui va aider le Canadien.
Il a l'air d'un petit clisse.
Oh, oui.
Les yeux au bord noir. Il y a du grit. C'est un grinder.
Ouais, tout
c'est
à
un
fait.
Grinder.
Toi, tu penses que c'est un bon move du côté
Caulfield,
de Caulfield?
Tout à fait. Puis par le passé, il y a plusieurs vedettes là, qui avaient besoin d'un. Mais je pense que peut-être, là, je spécule, je pense que Cole Caulfield a besoin d'un regain de confiance.
Exact.
Puis là, d'aller scorer des nets avec des gardiens vraiment en poche dans la Ligue américaine, ça avait donné un petit boost.
Exact.
Ça avait donné un petit boost. Souhaitons-le, hein, parce que c'est un jeune avec un immense potentiel. Il y a un tir du poignet comme peu de gars dans la Ligue nationale. Surtout dans l'équipe du Canadien, à part Mike Hoffman qui dégaine plus vite que son ombre, là, le reste du club, ça s'est pas tiré.
Mais justement, tantôt tu en parlais de Jonathan Drouin qui va jouer avec Hoffman, qui sont les deux joueurs, selon moi, qui sont les joyaux de ce début de saison. On n'a pas vraiment de bonnes nouvelles à part ces deux gars-là. Hoffman qui a montré que sur la supériorité numérique, il y a encore de quoi à offrir. Jonathan Drouin, après, on le sait, l'histoire de dépression qui est revenue, qui a une ovation, là, qui prend vraiment sa place comme joueur de première ligne.
Surtout dans les relations de presse aussi. Ouais. Là, en conférence de presse, il n'a pas peur de dire des...
Ah, il s'est pas gêné de dire que chez Weber, il a pris sa retraite, c'est fini. Ouais. Ben ça, d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on discute un peu de ça avant que je vous laisse parler de d'autres sports et de d'autres...
On parle de hockey pendant une heure et demie.
Mais de chez Weber qui s'en va, là, on a beaucoup de place, non seulement à la ligne bleue, parce que c'est une grosse pièce d'homme chez Weber.
Tout à fait, dans tous les sens du terme.
Et voilà, c'est aussi un gros morceau pour la masse salariale. Donc, c'est aussi un capitaine qu'on perd. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi par la suite? Qu'est-ce qui s'en vient?
Je pense que la présence, l'aura de Shea Weber est irremplaçable à court terme. Parce que, je veux dire, des vétérans de 35 ans qui ont autant de métiers que Shea Weber dans la ligue, il n'y en a pas beaucoup.
Qui est encore d'impact, là.
C'est ça, ben, en fait, d'impact. On s'entend. Moi, je le sentais là, dans les séries éliminatoires au printemps dernier, même à l'été, parce que ça a fini tard, cette affaire-là. Je le sentais que Shea Weber, c'était probablement sa dernière année où il n'y avait plus beaucoup de gaz dans le réservoir, tu sais. Puis même chose pour Price, tu sentais que là il avait besoin de prendre du recul du hockey, je pense là, ou tu sais, ne serait-ce que je sais pas. Là, le Price revient bientôt de ce qu'on comprend.
On mise beaucoup sur les jeunes joueurs en ce moment, je pense. On essaie d'y aller avec la relève, là, vu que nos piliers sont vieillissants.
Je pense que ça prend au moins un des deux piliers dans le vestiaire.
Non, clairement. Il y a un manque de leadership à quelque part. Dominique Ducharme, je l'aime bien comme entraîneur, mais je crois pas que c'est lui qui le brosse le plus l'équipe ou qui va rentrer dans le vestiaire. Va être comme, OK, là, les gars, là. On a de quoi changer.
Ben, c'est pour ça que Marc Bergevin, après la défaite à Los Angeles, a dit « Moi, je débarque dans le vestiaire, je vous dis qu'est-ce qui se passe.
Ouais. »
Tous les joueurs ont décidé de fermer leur trappe, de rien dire par rapport à ce meeting-là. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que, faut le rappeler, tu as dit 2 victoires, 8 défaites. Puis dans les défaites, c'est pas des 3-2, des 4-3.
Non,
des 5-1, 4-1, 6-1.
Ouais, c'est un des points que je voulais...
Contre le Kraken, c'était pas beau à voir.
L'offensive, en arrête... Contre le Kraken, c'est surtout la défensive qui nous a arraché aussi. Tu sais, un point par match. Le temps de possession en zone offensive, c'est 5 minutes 28 secondes. C'est rien. C'est son 30e dans la ligue. Les tirs tentés, cadrés, c'est 30e dans la ligue aussi. Seulement 21 chances de marquer depuis le début de la saison aussi. Donc, c'est un portrait côté statistique, c'est pas très beau. Sur la glace aussi, on le voit, on est beaucoup dans la zone adverse. Contre le Kraken, c'était pratiquement... c'est pas si pire, c'est pas leur pire, je crois, mais bref, ce soir contre les Red Wings, justement, est-ce que vous pensez qu'on a des chances de s'en
tirer? Ils ont gagné cette saison.
Considérant
donc
qu'on a gagné contre eux,
probablement.
Puis les Red Wings sont maganés. Ils viennent de perdre Dylan Larkin pour des raisons personnelles et Jakob Vrana est blessé encore pour quelques mois. Ce club-là est démuni.
Durant notre partie contre eux, notre joueur étoile était Mathieu Perrault, qui avait eu un tour de chapeau, on se souvient.
Il a une blessure à l'œil.
Oui, en plein ça. Donc, lui non plus, il n'est pas là ce soir.
Il a failli perdre sa rétine. Hein?
Ouh, c'est quand pas même drôle.
Ouais,
grosse affaire.
Mais oui, une victoire sûrement ce soir. Je l'espère en tout cas, parce que ça va prendre ça. Puis on va...
Les Red Wings jouent quand même bien dernièrement.
La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on est encore en début de saison. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer.
Sauf qu'une fiche de 2-8, ça fait mal.
Ah, oui, peux-tu remonter la pente?
Dernière chose, Félix, pendant qu'on t'a... Justement, je pense que, Jonathan, tu voulais peut-être en parler. Là, on a parlé des Blackhawks avant d'entrer en onde. Félix, sur 10, à quel point t'aimerais ça que Marc-André Fleury soit échangé aux Canadiens?
On va mettre un 10, tu sais.
Ah ouais?
Parce que... Mais contre qui?
Ben le Marc-André Fleury coûtera pas cher. Là. C'est un gardien de 37 ans.
C'est vrai que ça serait quand même un bon... Ben pour une saison ou deux, tu sais. Mais je pense que oui, ça serait
Pour finir l'année, là. Pendant que Price serait... est pas
Mais je pense qu'il s'en allait peut-être aux Oilers.
Ah.
J'ai vu des rumeurs. Puis Jack Eichel aussi, il faut savoir. En tout cas, on s'éloigne. Là, on a plein de choses à parler, puis je vais vous laisser continuer.
OK. Donc, Marc-André Fleury, c'est un oui. Puis toi, Joe?
Pas sûr.
Peut-être. Ça pourrait être une bonne transaction.
Un baume.
Vu les circonstances, mais si on attend un retour imminent de Carey Price...
C'est plus vraiment nécessaire.
Parce qu'on n'a pas de montant bon.
C'est pas la solution, je crois. Comme je viens de soulever, il y a beaucoup de problématiques à l'offensive. Donc, ça se passe peut-être plus devant. Ou à la défensive aussi, devant Carey Price. Ou en ce moment, Jake Allen ou Samuel Montembourg.
Yes. Hey, on va laisser Félix se quitter vers d'autres cieux et revenir plus tard, par contre.
Yes. Jonathan, on va durant notre émission. On va parler de tout autre sujet.
Yes.
À 16h, chérie, j'arrive.
Puis pendant la transition, on s'en va en musique avec Eman, Evie Looper, la pièce Petite équipe avec Maudley.
Yeah.
Yeah. Vous écoutez Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3.
Run the game, play. prends le pas personnel. Mon team, c'est le dream team. Sur mon jersey, c'est le 7. Move clever pour aller chercher le moule. Pendant que tu te fais jouer par ton label, nous on drop sur Google. À la Clyde Highway, t'es Ellis. Move minutes à l'échelle humaine, on est ben loin du village. Put the trap dans ton remix. Dans 2 mois t'es tes minutes. Dans 2 mois c'est ton terminus. Je kill pis t'es même pas encore vivant. On aurait grand temps. Une mouche volée mais c'est juste souvent. Je slap avec mes reliques. Bulletproof de street credit. Je promène une poussette. Fille une doucette. Spooky c'est pas une douzaine. Avec les mains c'est QB. C'est pas sérieux c'est douzaine. Je pense à mes moves comme un papa. Mais mon corps est un enfant. Bouge puis je loin de moi les data. Je fais un bail qu'on est planté là. Puis je vais pas planter là. Bouge quand t'es parti puis même quand t'es là. Fly as a motherfucking guy. Guy. Pourquoi tu fais le tout triste? C'est juste du rap music.
Where the hell have you gone? Wait a minute, could you tell me what's the game? If you keep it true, you know what to do. It will eventually come and serve you. Wake the fuck up, where the hell you gone? Wait a minute, could you tell me what's the game? If you keep it true, you know what to do. It will eventually come and serve you.
Ma famille sur les DS. Mon fils d'or, puis j'écris des rap comme un TS. Chillin' avec ses lacs, Nanti Mat, puis bossé. Mon rap c'est bossé, but I'm fly like hell, bossé. Jette ton drink dans les airs, puis fais comme si t'allais dans le cœur qui t'en donne sa voix. Uptown, c'est écrit sur le corner. Même si tu fais des lockdowns, puis tu sors plus des borders. Fly as a motherfucking fly. Pourquoi tu fais le tout précis, c'est juste du rap music.
De retour à Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3. Jonathan, on finit le bloc hockey au son de Eman et V-Looper parce que Félix aime le rap et on a mis du rap à Conduite Antisportive aujourd'hui. Cette pièce qui ne cesse de finir, ça par rapport, elle est interminable. Bref, Joe, on finit notre segment hockey. Qu'en dis-tu?
On s'éloigne un peu du Canadien,
ouais.
Faire un changement un peu. Il y a eu une grosse controverse, je dirais, dans les dernières semaines. Et il y en a de plus en plus qui sont du moins découvertes ou dénoncées.
Ouais. C'est assez troublant, alarmant. Ben, je pense qu'il y a une culture qui s'achève, puis tant mieux, au niveau du hockey professionnel, du moins. Là, espérons que ça ait des répercussions sur le hockey mineur, parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Surtout que c'est un sport de vieil homme blanc, là, on s'entend. Puis la Ligue nationale de hockey aussi.
C'est sûr. C'est des actions quand même qui remontent à quelques années, mais... Justement, dans la culture où on est en ce moment, dans la dénonciation, aussi, on voit ça avec la violence envers les femmes aussi beaucoup. C'est bien
écoute,
fait.
Oui, puis je pense que les vidanges se sortent finalement.
Oui, puis se sortent de n'importe quelle position, que ce soit de gérant à l'administration. Puis même, on va y aller jusqu'à retirer le nom sur la fameuse Coupe Stanley.
Ouais.
Je pense qu'il y a un nom qui va être retiré, Brad Aldrich.
Aldrich, ben, l'entraîneur adjoint à l'époque de la Coupe Stanley des Blackhawks en 2011. C'est ça.
Et c'est de là que Joel Quenneville, l'ancien gérant des Panthers de la Floride, était lié, en fait, et a annoncé la semaine dernière sa démission. Ce qui a créé quand même un gros éclat, mais quand t'es lié dans une situation aussi fragile, je dirais, c'est sûr que là, tous les yeux sont rivés vers lui, puis je pense qu'il a évité de... pas nécessairement le renvoi, mais il a voulu montrer qu'il savait les torts qu'il avait causés. Puis c'est pas impossible qu'on le revoie dans le futur, mais pour l'instant, Joel Quenneville, c'est la fin pour lui.
Ouais. Ben, écoute, à moins qu'il soit blanchi éventuellement, je pense que... Hey, va-t'en, Joel. On s'entend, là, tu sais.
Mais tu sais, Joel Quenneville non plus a pas commis les actes.
Non, mais c'est de la négligence.
Ouais, en plein.
Écoute, c'était sûr qu'il était au courant. C'était lui le coach. Comprends-tu? Puis Brad Aldrich a pas eu seulement Kyle Beach comme victime, là. Il y a eu d'autres joueurs, c'est officiel. C'est sûr.
Non, ouais, c'est la personne qu'on sait en ce moment, Kyle Beach.
Kyle Beach, c'est lui qui a eu le guts de sortir publiquement puis de se tremper, tu sais. Puis bravo à Kyle Beach, mais c'est sûr qu'il y a une tonne d'autres joueurs dans le National qui se mettent la tête dans le sable parce qu'ils ont peur des répercussions puis de leur carrière puis d'être retranché puis de repartir. Tu sais, il y a plein de facteurs. Là.
C'est un exemple parmi. Parmi tard, en ce moment, c'est beaucoup les Blackhawks qui sont...
C'est un club de vidange, là, on s'entend. On constate à quel point c'est un club de vidange.
De plus en plus, les faits font parler...
Les commentaires de Jonathan Toews puis Patrick Kane, là, les gars, voyons, vous me niaisez, là. On dirait que cette année-là, c'était « Hey, on gagne à tout prix, fuck le reste. » Ça me dépasse. Toujours pensé que c'était un bon leader, puis un gars honnête, un petit gars de la Beauce en plus, Jonathan Toews. Hein? Il est cute, il est bon, il est fin. Hein? Mais non. Mangez de marde.
Non, pas toujours. Bref, on va chercher un autre gérant du côté des Panthers. Ils sont pas chanceux, vraiment. Ils ont beaucoup de. Pourtant, ils sont pas chanceux, en fait. C'est une des meilleures équipes de la Ligue en ce moment. Ça tourne dans un mauvais moment parce que moi, je crois que Joel Quenneville a quelque chose à voir avec le succès des Panthers
en début de saison.
Donc...
Tout à fait.
Et moi, j'ai toujours apprécié... Là, en ce moment, c'est sûr qu'il va être dans mon estime côté de sa personne, mais comme gérant de hockey, ça a toujours été dans mes tops avec un des anciens aussi, Gérard Gallant aussi, qui a été renvoyé un peu...
Injustement,
oui. Ouais. Par la même équipe.
Par les Panthers, oui, effectivement.
Donc, ça va être à voir pour la suite. Si on va revoir Joel Quenneville. J'espère, du moins, malgré qu'il commence à vieillir aussi. Donc,
tu souhaites le revoir, toi? Je sais qu'il faut comme séparer l'humain du coach à ce niveau-là. Mm-hmm. C'est un coach probablement talentueux puis qui a vraiment une facilité à... véhiculer un message, puis à vulgariser aussi ses stratégies avec son équipe. C'est probablement peut-être un people's coach aussi, là, un gars qui est vraiment proche de ses joueurs.
Tu sens clairement la passion comparé à bien d'autres entraîneurs.
Oui, puis c'est un gars qui a du métier aussi. Il a fait plusieurs clubs dans sa carrière, tu sais, mais je pense que son temps est fait là. Puis ça, c'est l'élément déclencheur vers sa retraite. je pense. Je le souhaite. Moi, je veux pas le revoir. Là, hey, à quel point t'as besoin d'avoir un vieil homme blanc qui a commis ou qui a pas commis des actes qu'il aurait dû commettre, whatever. Là, on peut le voir de toutes les angles. Un homme négligent qui a évité de poser des gestes ou de se tremper justement par rapport à une situation très, très, très délicate d'agression, d'abus, de pouvoir. Écoute, ça pour moi, ça n'a pas sa place aucunement. Puis que le gars aille 26 coupes Stanley autour des doigts ou pas de maudite, ça change absolument rien.
Non, il y a un bassin assez grand pour, c'est sûr, aller chercher du renfort.
Puis à quand des femmes entraîneurs dans la Ligue nationale? Là, on a eu une arbitre dans la Ligue américaine en fin de semaine, la sœur de Anthony Manta, Elisabeth Manta, je crois son nom. Bref, hey, allumez les chums, là. Pourquoi on n'a pas de femmes entraîneurs? Pourquoi il n'y a pas de femmes arbitres dans la Ligue nationale? C'est une vieille ligue de graines. C'est ça, l'hostifie de problème. Puis là, ben, les vidanges se sortent parce que c'est une culture de marde, le hockey.
Ça se fait peut-être plus lentement que d'autres.
Ouais.
Domaine, d'autres sports ou
mais
d'autres.
Tu le sais, Joe, le prototype, le gars type, l'archétype du joueur de hockey, là, c'est un douche. On s'entend-tu là-dessus? Hein? On s'entend-tu là-dessus? T'es-tu d'accord?
C'est l'image
véhiculée pour la plupart des joueurs. Puis c'est con, mais ces gars-là sont réellement comme ça, là, tu sais. la plupart des. Tu sais, des Patrick Kane, là, qui harcelait un chauffeur de taxi pour pas qu'il paye une rate de 10$, alors que le gars fait 10 millions par année, tu sais.
Non, c'est sûr, ça monte à.
Des soirées, genre, virulentes dans des bars où il y a des filles qui sont agressées par des joueurs de hockey, là, il y en a une quantité astronomique. Là, je pogne les nerfs, là, parce que ça me fait chier, cette culture-là, parce que j'adore le sport. Écoute, le sport est vraiment hot. C'est un sport capoté,
c'est une culture à changer,
intense, mais la culture est dégueulasse. Là, pis j'espère que des moves, là, des Kyle Beach de ce monde, il y en a plusieurs qui vont éclore dans les prochaines années. Voire, espérons prochains mois, mais plusieurs dans les prochaines années pour que
mais la culture... Mais comme on disait, ça prend des gars, c'est pas facile. C'est se mouiller complètement, se mettre à...
Kyle Beach, là, je lui lève tous les chapeaux de ma garde-robe au complet. Bravo, bravo.
Un chapeau, c'est vrai.
Ouais, yes. Hey, c'est un segment émotif de ma part. Voir acerbe.
Vider son sac. mais tu sais, c'est pas de faux, là, vraiment pas. Mm. C'est juste que ça se fait très lentement, je dirais.
Trop lentement, ouais.
Trop lentement, ouais.
Ouais, ouais. Hey, pèse pas tes mots, Joe.
Particulièrement dans la Ligue nationale,
ouais,
de hockey.
Ouais.
Mais là, ça commence avec, je crois, la tête de la Ligue, avec Gary Bettman. Là, en ce moment aussi, il a semé vraiment la contre... ouais, la grogne un peu, si je peux dire. Je pense que le changement de culture va se faire à partir de lui. Quand on va changer Gary Bettman à la tête de la Ligue, on va peut-être voir des changements tranquillement. Mm-hmm. Mais ça commence avec lui, je pense.
Ouais, clairement. Ben, à quel point, en fait, c'est que le hockey est vieux jeu, puis là, je fais pas de mauvais jeu de mots plates, là, c'est que on dirait qu'il y a une espèce de stabilité et un trop grand respect de la hiérarchie et des années d'expérience. Dans le sens où, hey, le gars, ça fait 20-25 ans qu'il est dans la Ligue nationale. C'est clair qu'il connaît vraiment le hockey actuel, tu sais. Dans le sens où le hockey change, est constamment en changement, surtout depuis le lockout, là. Puis, je veux dire, la société au complet change autour du sport, là. Il y a pas juste, c'est pas une micro-société, le hockey de la Ligue nationale, là,
non, faut s'adapter, là, surtout vu la saison dernière aussi, hey, avec autant de changements.
Arrivé en 2021, les chums, là, du monde du hockey professionnel, hein? En tout cas, bref.
Le message est lancé.
Hey, appelez-nous. Yes, whatever. Hey, Joe, j'ai le goût de te proposer un bloc publicitaire, puis après ça, on parle de hockey, mais de vrai hockey, et non de de tout ce qui entoure le hockey de façon toxique. OK? T'es-tu d'accord?
Ouais. Yes. Le baseball s'en vient aussi.
Oui, le baseball s'en vient. Donc, au retour de la pause, on se jase de hockey, de classement et de l'état des forces.
Parfait.
Vous écoutez Conduite Antisportive, version chiolage sur les ondes de Chiz 94.3.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
The following program is disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
Écoute!
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog n'aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Vous écoutez toujours Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3. Jonathan, finissons, si tu le veux bien, notre bloc hockey.
OK, oui.
OK, oui. Yes, sir!
Donc, on irait avec un portrait général comme un état des forces de la Ligue.
Pourquoi pas?
En ce début de saison, je crois qu'on peut voir quand même clairement les meneurs, puis eux qui tirent la patte un peu, mais tout n'est pas soudé dans le béton. C'est encore tôt, c'est environ une dizaine de parties par équipe jouer.
On peut vite comprendre qui est dans la gang à David puis qui est dans la gang à Goliath.
Ouais, c'est, pense, hein? ça se décide un peu, mais comme je dis, tout peut changer.
Ouais, ben oui, puis non. Pour certains clubs, là, on s'entend que l'avenir n'est pas très reluisant. Comme les Coyotes.
Oui, les Coyotes aussi. On va commencer par la cave.
On peut commencer par la cave.
On va commencer par la
cave. Si ça te tente, moi, ça me tente.
Qui sont avec nos amis les Canadiens. Mm-hmm. Mais les Coyotes, qui ont aussi ceux qui ont changé de logo, moi, je n'étais pas d'accord avec leur changement de logo. Donc,
c'est vrai, on en avait parlé un petit peu. Hein?
Donc, ils vivent les conséquences de leur décision et ils ont 0 victoire, 8 défaites, 1 en prolongation, donc avec un grand total de 1 point. Le différentiel est à moins 26, donc c'est pas super. Donc, autant au niveau de l'offensive, de la défensive, il n'y a rien vraiment qui va du côté des Coyotes. Mm. Je sais pas si c'est un point à soulever pour.
Pas du tout, peut-être que le club. Va éventuellement déménager. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Là, je sais pas si t'as eu vent des rumeurs, Jonathan, mais normalement, le club, d'ici 2 ans, déménagerait. Reste à voir où.
La question, ça serait où?
Puis, on peut déjà parier, puis, en tout cas, sans trop se tromper, on peut penser que le club va être relocalisé aux États-Unis. Parce que Gary Bettman est encore en poste. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est vraiment à voir. Je peux pas prononcer là-dessus. Mais les Coyotes, ils ont un problème, bien évidemment, de localisation et d'aréna. Donc ça va
Ouais, exact. Ben, c'est ça. En fait, là, ils n'ont pas renouvelé. Le bail est renouvelé pour jusqu'à cette année, mais après ça, je pense qu'il est terminé. Donc, okay. Effectivement.
Mais sur la glace, c'est pas très. Tu sais, la moyenne de différence, c'est le différentiel moins 2,72. Donc, ils sont 32e, en fait, dans la ligue. Pourcentage de points aussi, 32 avec juste 56%. Donc, des très faibles performances pour les Blackhawks. On va pouvoir les
pour
voir.
Pas pour les Blackhawks, les Coyotes.
Les Coyotes, excuse-moi. Ouais, on va les voir en action ce soir contre les Flyers de la Philadelphie qui vont tout de même bien. 4 victoires, 2 défaites. Donc, on va voir si ça va être.
J'aime ça, tu as dit de la Philadelphie, comme si c'était un état.
Je dis tout le temps ça.
La Pennsylvanie ou Philadelphie, Pennsylvanie. Ouais.
Je peux
comprendre le lapsus, par contre.
Ouais, les Flyers. De Philadelphie, oui. Ouais. C'est pas de la Philadelphie. Hein.
La Philadelphie, ouais, du fromage à la crème. Yes.
ça va être un bon affrontement. Moi, j'aime bien ça, les débuts de saison, voir une équipe avec un classement parfait ou le contraire, en fait, pas de victoire. Mm-hmm. Puis j'aime ça voir jusqu'à où que ça peut se rendre.
Ouais.
Tu sais, c'est pas contre l'équipe personnellement, mais on va voir jusqu'où ils vont tirer leur séquence sans victoire.
Ouais.
C'est la seule équipe, en fait, qui ont toujours pas de victoire dans la Ligue cette année.
Je regardais un peu leur alignement non plus. Boy, ça fait pitié, là. Ça fait vraiment pitié. Même, je veux dire, Phil Kessel, ce n'est plus la vedette d'antan.
Non, il a régressé beaucoup, en effet, depuis son temps juste avec les Penguins de Pittsburgh.
Ouais, écoute, je vais dresser un bref portrait des Coyotes. On a notre bon vieux Alex Galchenyuk qui est là, qui est retourné avec les Coyotes après... Après son échange contre Max Domi, on s'en rappelle. Donc, il retourne avec les Coyotes. Devant le filet, c'est Carter Hutton qui est d'office pour la plupart des matchs. Parce qu'on avait échangé Adam Hill aux Sharks, qui était le gardien d'avenir. évidemment, à part ça, Antoine Roussel, vieillissant aussi. Shane Gottesberry, qui joue vraiment pas en défensive. Il est super bon sur l'avantage numérique, mais sinon, dans sa zone, ça fait pitié. Hey, Louis Erickson, qu'on est allé chercher parce qu'on avait besoin d'atteindre le plancher salarial. Donc, un boulet volontaire. Andrew Ladd aussi, même chose, un autre boulet. Hey, écoutez, rien d'autre. Ryan Dezingle. Ce club-là, va finir dans la cave.
Mais du moins, comme tu viens de dresser le portrait indique cette position.
Ouais. Et on vise Shane Wright, qui sera le premier joueur repêché au prochain encamp de la Ligue nationale en juillet prochain.
C'est vrai. D'autres équipes aussi qui visent ce fameux joueur. Il y a les Blackhawks, comme on parlait un peu plus tôt. Une victoire seulement à leurs 10 derniers matchs. Et le Canadien, qui est en 30e position aussi, avec seulement 4 points.
Yes. Sinon, on a parlé des Blackhawks, puis garde, on n'en parlera pas plus que ça.
Non,
ça
c'est
va
ça.
Pas bien.
J'aime mieux parler des meilleures équipes. Une équipe qui n'a pas de défaite encore cette année. Et je nomme les Hurricanes de la Caroline. Très surprenant. Des très belles performances aussi, autant devant le but, en offensive.
Est-ce que c'est vraiment surprenant, par contre?
Ben, 8 victoires, 0 défaite. Oui. Tu sais, je m'attendais peut-être à un 6-2, 5...
Pour, okay.
Mais pas une fiche parfaite après 10 matchs.
Ouais, après 8 matchs, moi, exact. Mais je suis d'accord.
Est-ce que tu crois que ça va perdurer?
Ben, je pense que les Hurricanes sont une puissance dans la Ligue, même si on dirait qu'ils n'ont pas l'historique d'un club avec beaucoup de profondeur. Là, je pense que depuis quelques années, ils l'ont vraiment démontré, surtout sous le règne de Rod Brind'Amour. Je pense que j'ai l'impression que c'est vraiment un...
C'est là que la tournure s'est faite.
C'est la colle qui unit tout le monde. On a échangé Alex Nedeljkovic, qui était le gardien d'avenir du club aux Red Wings. Ça, c'est une transaction qui a été vraiment mitigée dans la communauté des fans des Hurricanes. Avec raison, parce que Nedeljkovic avait démontré de très belles choses l'an passé. Par contre, on a ramené Frederik Andersen, qui était avec les Maple Leafs, puis il garde très bien les buts.
Surtout troisième étoile du mois aussi dans la Ligue nationale.
C'est ça, Frederik Andersen. Puis, ironiquement, c'est parce que maintenant, là, il y a une bonne défensive derrière lui. Avec les Maple Leafs, là, ça prenait l'eau à chaque match.
Ouais, puis c'est lui qui en est copé.
On disait souvent que Frederik Andersen a accordé au moins un mauvais but par match, un but facile où il était chancelant entre les jambes. T'sais. Il y a eu beaucoup de dénigreurs qui ont bâché Frederik Andersen, alors que là...
On voit plus sa valeur, je trouve, avec cette équipe-là.
Full,
ressortir, là.
Vraiment, parce qu'il y a des piliers en défensive qui sont là depuis plusieurs années. Je pense à Brett Pesci et Jakob Slavin, qui sont excellents, mais excellents dans leur zone. Avec aussi des gars comme Anthony DeAngelo, un gars qui a fait couler beaucoup d'encre parce que c'est un genre de bizarre, un peu d'extrême droite, et il y a des propos vraiment discutables, disons ça. Par contre, sur la glace, il est excellent. Il fait la pluie et le beau temps sur l'avantage numérique aussi avec les Hurricanes. On a pris quelques risques aussi d'y espérer Kotkaniemi à 6 millions, tu sais, des affaires bizarres de même. Par contre, le noyau des Hurricanes est excellent, puis c'est ce qui fait leur succès. Et je pense qu'effectivement, ça va peut-être perdurer. Je pense pas qu'ils vont gagner 26 games en ligne. Par contre, c'est un club qui, dans la division métropolitaine, d'après moi, va finir dans le top 3. Peut-être en compagnie des Rangers et des Capitals. Peut-être des Islanders, parce qu'ils n'ont pas le début de saison escompté. Je dirais, là, dans la division métropolitaine, je vais y aller d'une prédiction un peu audacieuse. Ben, pas audacieuse parce que, bref, c'est des clubs assez forts, mais parce qu'on est très tôt dans la saison, je trouve que c'est un peu audacieux. Je mets les Capitals premiers dans la division métropolitaine, je mets les Islanders en deuxième et les Hurricanes en troisième, sur 8 clubs. Donc, voilà.
Quand même.
Ouais.
Non, c'est sûr, c'est une puissance depuis une ou deux saisons. Ouais. Donc, je les vois aussi en fin de compétitionner pour la Coupe Stanley à la fin de la saison.
Yes. Sinon, on peut aller dans d'autres divisions, là, peut-être dans l'Atlantique. On parle des clubs présentement en forme. il y a les Panthers, on en a parlé un petit peu avant par rapport justement à Joel Quenneville. Sinon, les Sabres, 5-2-1 après 8 matchs.
Ouais, début de saison, pas à leur image.
Ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant et surprenant.
Ouais, ça, c'est une surprise.
Disons-le. Mais est-ce que ça va durer?
Non. Voilà ta réponse.
Tout simplement, non. Je suis du même avis. J'ai pas vraiment le choix d'être de ton avis, j'entends. C'est un club qui manque visiblement de profondeur et ça va les rattraper à la fin de la saison. Ça, c'est officiel. Sinon, dans l'Ouest, de qui veux-tu parler? Il y a plein de bons clubs, là.
Dans l'Ouest, les Flames jouent bien, je dirais. 6 victoires, 2 défaites.
Ouais, dans la Pacifique, ouais.
Ils sont pas... éclatant, on les voit pas, mais leur fiche parle pour eux quand même. Donc, les Flames de Calgary vont être à surveiller dans les prochaines semaines avec leurs voisins aussi, les Oilers d'Edmonton. Dans le fond, quelques équipes canadiennes qui font très bien, 6 victoires, 1 défaite aussi. Les Oilers jouent bien aussi sur glace et des belles performances qu'ils ont. Avec, mettons, un top 3, je dirais les Blues de Saint-Louis.
Ouais, moi aussi, je les aime bien, les Blues, quand même. C'est un club, on dirait, silencieux. Ils ont quand même gagné la Coupe Stanley il y a trois ans. C'est une belle année, là. Oui, les Blues ont une certaine notoriété dans la Ligue, mais je trouve que c'est une équipe qui, tranquillement, silencieusement, se ferait un chemin vers les séries à chaque année. Parce qu'ils ont énormément de profondeur, justement, contrairement à des clubs comme Buffalo et l'Arizona, dont on mentionnait un peu plus tôt. Il y a de la puissance, il y a du jeu physique sur les quatre trios, un peu comme les Islanders de New York. Et Ryan O'Reilly, moi, je trouve que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale. C'est un gars qui peut tout faire. Un centre numéro un dans presque toutes les équipes de la Ligue aussi. Avec David Perron, c'est une super belle paire. Avec ça, on ajoute des très bons jeunes, d'ailleurs, comme la résurgence de Ivan Barbashev qu'on avait repêché à l'époque là, de Nikita Sherbak avec le Canadien qui avait vraiment pas levé. On avait levé le nez sur Ivan Barbashev qui est maintenant quand même excellent. Robert Thomas aussi, un bon petit jeune. Donc, j'aime bien le club des Blues de Saint-Louis. En défensive aussi, Kevin Falk est très chouette. Colton Parayko aussi, grand gars.
C'est vrai, on va voir si leurs performances vont demeurer pour les prochaines semaines. Comme on dit, c'est tôt encore, mais ça donne un bon portrait de qui domine et qui tire de la patte.
Ouais, moi c'est un de mes clubs favoris cette année dans la Ligue nationale, les Blues de Saint-Louis. Yeah. Autre chose, Jonathan, on finit ça, le hockey, on est tanné. Hein.
Terminé.
Terminado! Parce qu'après, on parle de balles.
Oh oui.
Des balles rapides, des balles courbes, des changements de vitesse, des glissants.
Beaucoup de balles rapides, en fait.
Beaucoup de balles rapides. Puis pour ça, on s'en va écouter la pièce Baseball de Golfer sur les ondes de Chiz 94.3. Golfer et la pièce Baseball sur les ondes de Schiste 94. Trouve, vous écoutez toujours Conduite Antisportive alors que j'ai un petit problème de micro. Jonathan, on va faire un bref bloc baseball cette fois-ci à l'émission, contrairement à d'habitude, parce que, écoute, yeah, hey,
on parle... reste pas mal une série. Hein?
C'est ça, on parle beaucoup de baseball en plus là, depuis le début de notre collaboration radiophonique. Et bien, effectivement, les Braves sont en voie de gagner la Série mondiale.
Si
la tendance se maintient.
Dès ce soir, ça peut se terminer pour le baseball, en fait. Les Braves qui visitent les Astros de Houston. Les Astros qui ont un regain d'énergie dès la dernière partie dimanche soir. Quand une victoire de 9-5.
Ouais, et assez tranchante. Là.
C'est une équipe qui sont capables de créer un certain momentum. Donc, ça va être à voir s'ils vont pouvoir transporter ça ce soir. Et on rappelle, en fond, les Astros doivent gagner ce soir et demain pour avoir le fameux titre.
Ça se complique pour
Mais,
une poubelle.
On va essayer de décortiquer rapidement qui a l'avantage du côté des deux équipes. Là, les Astros de Houston vont jouer à domicile.
Ce soir
et demain.
Ouais.
Donc, ce qui est quand même un bel avantage. Ce soir, c'est Garcia qui va lancer. Son nom, Luis Garcia.
Oui, Luis Garcia.
Et Max Fried. Donc, c'est pas un gros match-up de lanceur. Ça va jouer
Garcia est excellent dans son départ vendredi dernier. Il a presque rien donné en 5 manches. Je pense qu'il a donné un circuit en solo à Travis d'Arnaud et c'est tout. Donc, ouais, Garcia est de retour après 4 jours de congé seulement.
Plus ou moins bien reposé, mais on sait qu'en série, c'est
un peu plus demandant.
C'est rapide. On aurait fait appel aussi probablement à Charlie Morton pour aujourd'hui ou demain, mais malheureusement, il est blessé pour le reste de la série. Donc ça, je crois que ça va faire mal aux Braves d'Atlanta.
Ouais. On dirait que j'ai un mauvais feeling pour ce soir du côté des Braves. J'ai l'impression que les Astros vont l'emporter. Puis je vais faire une prédiction complètement à l'aveugle. Je vais dire un 6-3 Houston ce soir.
Ça a de l'allure. C'est pas ce que je souhaite, bien évidemment.
Moi non plus, qu'on se le tienne pour dit.
Puis les Braves, c'est vraiment surprenant quand même de voir là. Quand on repense, c'est une équipe qui a eu 88 victoires durant la saison régulière, ce qui est moins que les Blue Jays, que les Mariners et qu'une autre équipe, je crois, qui n'ont même pas fait les séries. Mm-hmm. Là. Donc, c'est vraiment une équipe qui partait de loin, je crois, cette année pour se rendre jusqu'à... Donc, ça serait beau les voir gagner.
Ben oui, vraiment. Surtout que Ronald Acuña est blessé. Je le dis à chaque semaine.
Ouais, ils ont réussi à tout accomplir ça sans leur joueur vedette. Là. Lui qu'on parlait sans cesse
c'est
au
ça,
début de la saison.
Sans un joueur franchise, sans probablement un des top 3 dans la ligue. Là. Mm. Dans les deux ligues combinées américaines nationales.
C'est comme si les Angels accomplissaient ça sans Mike Trout,
sans Mike Trout
des gros piliers comme
sans
ça.
Sans Otani.
C'est impressionnant.
Oui, vraiment. Donc, encore, bravo aux Braves d'être là. Puis j'espère qu'ils vont finir ça ce soir, mais j'ai l'impression que ça va pas se passer.
Non, on va peut-être manquer un peu de jus, mais il en reste pas gros quand même. Là, une bonne manche, puis on est peut-être capable de... En tout cas, ils ont la chance de fermer les livres ce soir.
Yes.
Les Braves d'Atlanta, c'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné la Coupe? Ça doit faire un...
La Série mondiale, hey, bonne question.
La Coupe, la Série mondiale. Ça doit faire quelques années, certainement.
Je vais regarder ça en temps réel, Jonathan, pendant que tu fais autre chose.
Voilà.
En 95, la dernière.
Ça fait quoi? Ça fait... mon calcul...
Mm-hmm.
25 ans, ça 26 ans même, donc c'est le temps pour les Braves d'Atlanta de repartir avec la Série mondiale.
95 la dernière fois. Yes. Hey, j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, là, tu le sais Jonathan, il y a beaucoup de, de refonte d'images et de changements de nom d'équipe sportive parce que souvent c'était un peu dégradant pour les communautés autochtones. T'as eu vent de ça.
Les
Indians de Cleveland. Maintenant, c'est l'équipe de Cleveland. Même chose pour...
les Redskins.
Oui, anciennement, les Redskins, qui sont maintenant le Washington Football Club, je pense. Écoute, ça, là, le football, la NFL ne m'intéresse vraiment plus. Par contre, là, j'ai vu, en fait, dans les blogs et sur Reddit, là, je me suis un peu perdu sur Reddit un soir, et je lisais des commentaires de fan de baseball du sud des États-Unis, dont la Géorgie et précisément Atlanta, parce que il y a une certaine tradition de chant un peu bizarre, ben c'est pas bizarre mais comment dire, étroitement approprié culturellement à des communautés autochtones du sud des États-Unis, lorsque les partisans des Braves et partisanes des Braves prennent pour leur équipe puis ont des chants dans le but d'encourager leur équipe. Certains mouvements avec des espèces de tomahawk, je sais pas si tu as vu ça, la hache comme ça.
Vous voyez très bien.
Surtout que c'est une gang de blancs, blanches là, qui font ça. Après, là, encore là, la culture de l'équipe est un peu peut-être à revoir. Par contre, je lisais des commentaires comme quoi plusieurs personnes issues de communautés autochtones mentionnaient que c'était pas nécessairement dégradant le terme « brave » pour l'équipe de baseball, même que c'est plutôt un hommage qu'ils leur font parce que c'est un adjectif, comment dire, positif. Alors que Redskins, c'est complètement dégradant et c'est inacceptable. Donc, je pense que même là, le commissaire de la Ligue, Manfred, s'est prononcé là-dessus. C'est ça son nom, Rob Manfred. Tu me corrigeras si je me trompe. Ouais. Rob Manfred. C'est prononcé pour dire que... Ben, je sais pas, est-ce qu'il parlait au nom des communautés autochtones? Là, je le sais pas. Par contre, il a mentionné que la refonte était comme pas nécessaire, puis que c'était plutôt un hommage et blablabla pour ça. J'ose croire, puis j'espère qu'il s'est fait backer par les communautés autochtones du sud des États-Unis, mais bref. Hein, les Braves ont le bénéfice du doute sur leur identité.
C'est ouais, c'est.
Puis on l'a plus de plusieurs fans. Là. J'ai lu des commentaires aussi sur Facebook puis sur Reddit, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui trouvent pas ça alarmant. Donc voilà.
Ça va être un sujet à réflexion durant la saison morte après.
Yes.
Sinon, c'est la fête d'une époque aussi au baseball. Les lanceurs, en fait, qui frappent dans la Ligue nationale ne feront plus ça, en fait, dès la prochaine saison, probablement, à moins qu'il y ait un gros, gros, gros changement.
Ouais.
Puis je voulais nommer juste quelques joueurs qui ont vraiment marqué des lanceurs qui frappaient. Je vais y aller plus avec notre génération dans nos dernières années. J'ai Madison Bumgarner, premièrement, 19 circuits en 594 présences,
ouais, il frappe
très bien. Ce qui compose environ une saison complète. Mm-hmm. Si on prend toutes ces saisons, toutes mises ensemble, sa grande dominance était en 2014-2015 surtout. Sinon, Zach Greinke aussi, avec un Cy Young, 6 Gold Glove.
Ouais.
En 2013, avec les Dodgers, il y a eu une moyenne de 328. Donc, c'est très bon. En 2019 aussi, a connu une belle année.
Vraiment.
Et un peu moins connu, mais qui a vraiment surpris, qui m'a marqué aussi, un releveur avec les Reds, Michael Lorenzen.
Ouais, vrai.
Une moyenne de 2,92 en 73 présences. Donc, c'est de mention quand même. Et c'est la fin d'une époque. Là. C'était quand même le fun de pouvoir voir des lanceurs s'attaquer au bâton. Évidemment, ça l'a amené un petit côté plus stratégique, un petit côté de... surtout pour les gérants, en fait, à gérer.
Oui.
Mais...
Souvent, à deux retraits, on va donner un but sur banc intentionnel au frappeur avant pour affronter le lanceur. Tu sais, c'est un peu plate.
Oui, mais c'est divertissant d'un certain point. Mais tu voyais qu'il y a des lanceurs qui s'en foutaient et qui donnaient pas d'effort vraiment au bâton.
Non, c'est ça qui est drôle.
Tandis qu'il y en a qui se donnaient et qui avaient des chances de blessure aussi. Donc, c'est peut-être une bonne chose que ce soit la fin pour ça.
Moi aussi, je pense que c'est une bonne chose. Hey Jonathan, j'ai fait une parenthèse sur l'identité des Braves d'Atlanta. C'était aussi pour faire un lien avec une page sportive que je trouve vraiment inspirante qui s'appelle Hockey Indigenous, donc hockey indigène, même si le terme indigène en français n'est vraiment pas pareil au terme anglais. Ouais. C'est en fait un blog, un OBNL canadien qui encourage les jeunes issus de communautés autochtones à pratiquer le hockey et même qui vont donner des bourses d'études pour des programmes de sport-études, justement. Donc, Hockey Indigenous, c'est sur Facebook. C'est aussi leur site web hockeyindigenous.ca. Ce qui est vraiment chouette, puis j'ai connu ça par rapport à d'autres partages de pages de hockey, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur de la Ligue nationale issu d'une communauté autochtone, par exemple TJ Oshie, qui est Ojibwe, donc une communauté autochtone américaine, TJ Oshie Ojibwe, qui marque un but, exemple, hier soir contre les Penguins de Pittsburgh, ben Hockey and DeGeneres va le partager pour dire ben OK, TJ Oshie a scoré un but hier soir puis ils vont le mettre en vidéo, tu sais, quoi que ce soit, c'est vraiment le fun parce qu'ils mettent en lumière tous les joueurs de hockey qui sont puis nous on le sait souvent pas là,
qu'on s'aurait jamais douté.
C'est ça exactement que c'est OK, TJ Oshie c'est un joueur de hockey issu d'une communauté autochtone, pareil pour plein d'autres joueurs aussi de l'autre côté de l'océan, dis-je bien. Il y a plein de joueurs aussi américains et canadiens issus de communautés autochtones qui jouent en Europe, évidemment. Donc, c'est le fun. Ils parlent de plein de... Ils font l'histoire aussi de plein de joueurs, comment ils sont rendus là, leur parcours, etc. Donc, c'est vraiment trippant. Hockey and DeGeneres. Allez voir ça sur Facebook.
Ouais, ben, bonne page à suivre, yes, sur les réseaux sociaux.
Yes. Jonathan,